Là, il est tout juste 8 heures. Le journal, Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Des conséquences désormais sur le quotidien des Français. Le coronavirus et les mesures pour limiter sa propagation. Annulation des rassemblements. Plus de 5000 personnes en milieu fermé. D'autres mesures dans les deux principaux foyers Oise et Haute-Savoie. On le verra. La fin du débat parlementaire sur la réforme des retraites. Le Premier ministre engage sa responsabilité par le 49-3. Deux motions de censure déposées. On en parle également à 8h20, Pierre.
Avec Boris Vallaud, qui est député socialiste des Landes et porte-parole du Parti socialiste.
Un index d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour les PME aux États-Unis, le pari réussi de Joe Biden en Caroline du Sud, dans la course à l'investiture démocrate à la Maison-Blanche. Et puis les sports, tous les rendez-vous ne sont pas annulés à cause du coronavirus. Se joue notamment le derby Lyon-Saint-Etienne, Ligue 1 de foot, à suivre dans le journal des sports d'Amaya Cazenave dans 10 minutes.
France Inter.
Vivre avec l'épidémie de coronavirus et s'adapter. La France, désormais deuxième pays européen le plus touché après l'Italie. 1000 cas chez notre voisin, 100 depuis fin janvier dans l'Hexagone, dernier bilan en date. La France est passée au stade 2 de l'épidémie sur une échelle qui va jusqu'à 3. Et des mesures annoncées hier par le ministre de la Santé, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné annulés. Le salon de l'agriculture par exemple qui devait se refermer ce soir. Des événements sportifs comme le semi-marathon de Paris prévu aujourd'hui. Mesure plus stricte encore dans les deux principaux foyers de propagation du virus, l'Oise d'abord qui compte 36 cas. Mathilde Dehimi.
Ce n'est pas un scénario à l'italienne, dit le directeur général de l'Agence régionale de santé. Pas de zone rouge, pas de confinement, mais les autorités demandent aux habitants des zones les plus touchées de limiter leurs déplacements à l'essentiel, au supermarché par exemple, là où on ne reste pas très longtemps au contact les uns des autres. Les habitants des zones concernées, là où il y a plusieurs cas positifs au coronavirus, doivent donc favoriser le télétravail, ce qui s'avère compliqué à mettre en place, par exemple sur la base aérienne de Creil, dit son commandant, vu le nombre de personnes habilitées secret défense. Tous les établissements scolaires de Creil et alentour, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lagny-le-Sec et La Morlaix, seront fermés dès lundi, avec consultation médicale, voire dépistage dans la semaine pour les 26 000 élèves concernés. Des cours en ligne seront disponibles, mais les familles vont devoir s'organiser. Tous les habitants du département sont eux privés de rassemblements publics, sportifs et religieux jusqu'à nouvel ordre.
Et autre foyer en Haute-Savoie, là aussi des mesures très strictes. Et dès jeudi d'ailleurs, explique le maire de la Balme de Siligny, François Davier.
Le premier soir, on a fermé les crèches, les centres de loisirs. Et le deuxième soir à 17h, toutes les associations avaient arrêté les 70 associations avaient arrêté leurs manifestations. Tout le monde le comprend bien. Quand on voit des gens qui sont avec des masques dans la commune, que la commune se vide, bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Je croisais une personne âgée qui me disait « Oh, moi j'ai 80 ans, là, là, là ». Et j'ai dit « Oui, ce week-end, est-ce que tu reçois tes petits-enfants? Est-ce que ta fille n'est pas enceinte ?» Quand on réfléchit à ces choses-là, on se dit « Oui, il faut peut-être quand même qu'on fasse attention et surtout qu'on prenne toutes les dispositions pour faire barrage à ce développement ».
Coronavirus, inquiétude en Martinique. Aucun cas n'a été détecté. Des heurts hier soir entre policiers et manifestants qui réclament des contrôles sanitaires plus stricts des voyageurs qui arrivent sur l'île. La France face à une épidémie de coronavirus. Les autorités sanitaires assurent qu'elles sont prêtes à faire face. Mais professionnels de santé redoutent un trop grand nombre de malades dans un système hospitalier déjà mis à rude épreuve. Le coronavirus qui poursuit sa progression dans le monde. Plus de 3500 cas désormais en Corée du Sud avec un premier cas de recontamination. Une femme guérie à nouveau testée positive. Un premier mort aux États-Unis. Et puis ce matin, les places boursières du Golfe qui plongent à l'ouverture.
Estelle Schmitt, en pleine crise du coronavirus, Édouard Philippe dégaine le 49-3 sur le projet de réforme des retraites.
Mais cette décision n'a rien à voir avec le coronavirus, assure le Premier ministre. Cet article de la Constitution permet de faire adopter un texte sans vote alors qu'à l'Assemblée, depuis des jours, les discussions patinent, les amendements se comptant par dizaines de milliers. 8 articles du projet de loi ordinaire étudié, Édouard Philippe dénonce un non-débat. Il est venu lui-même annoncer hier le recours au 49-3 aux députés. Tollé dans l'opposition, 2 motions de censure déposées, l'une par les députés Les Républicains, l'autre par la France Insoumise, le Parti communiste français et le Parti socialiste. On y revient d'ailleurs à 8h20 sur Inter avec Boris Vallaud, député porte-parole du PS. Motion de censure débattue sans doute mardi. La responsabilité du gouvernement engagée, mais très faible probabilité pour que ces motions soient votées, car le parti présidentiel et ses alliés sont majoritaires. Et colère également chez les syndicats. La CGT annonce une journée d'action dès la semaine prochaine. Michel Beaujat, lui, est le négociateur retraite chez Force Ouvrière. Il dénonce un 49-3 en catimini.
dans un climat anxiogène qui est une épidémie de coronavirus, eh bien là, on passe en loose day un 49-3 un samedi soir à 18h. Contrairement à ce que dit le gouvernement, l'opposition posait, qu'elle soit de gauche ou de droite d'ailleurs, posait des bonnes questions sur l'avenir. Là, on s'est arrêté à l'article 7. Mais les articles importants, par exemple, qui renvoient pour la plupart à des ordonnances, tous sur les points, sur la valeur du point, tout ça, eh bien, on vient de le balayer d'un coup. Et c'est ce débat qu'a interrompu le Premier ministre avec le 49-3. Donc, le gouvernement sort une arme constitutionnelle, mais pas forcément démocratique.
Et déception également pour Pascale Coton, négociatrice retraite à la CFTC, mais elle espère encore pouvoir négocier.
C'est dommage d'avoir fait 2 ans et demi de concertation et de négociation. Et puis, nous, CFTC, syndicat de construction sociale, on n'a jamais quitté la table. On a été à toutes les négociations et de faire tomber le 49-3 aujourd'hui. Ce 49-3, il tombe mal, mais c'est pas la dernière chance puisqu'il va y avoir des améliorations, on le souhaite, quand il y aura le débat au Sénat et en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. Partout où on peut faire bouger les lignes, on retournera parce qu'on estime que pour la compte pénibilité, le compte n'y est pas. Donc, on a encore des lignes rouges qui sont à franchir et on a tout espoir que les choses s'améliorent.
Propos recueillis par Delphine Simon et dans une lettre au syndicat hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe assure que la conférence de financement, elle, poursuit ses travaux. Et à l'annonce du recours au 49-3 hier soir, plusieurs manifestations à Paris devant l'Assemblée, à Bordeaux, à Lille, au Havre, le local de campagne d'Édouard Philippe, tête de liste au municipal, a lui été caillassé.
Il est 8h06, Estelle, les PME publient pour la première fois leur index d'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Oui, la date butoir, c'était aujourd'hui pour les 37 000 petites et moyennes entreprises. Un an après les grands groupes, une note sur 100. Le gouvernement promet des sanctions au bout de 3 ans pour les mauvais élèves. Précision Claire Chaudière.
Pour toutes ces entreprises de 50 à 250 salariés qui n'ont pas toujours de service DRH ni d'accord sur l'égalité professionnelle, la barre minimale des 75 points sur 100 n'est peut-être pas si facile à atteindre.
On a obtenu une note de 70.
Grégory Mariani, société E-Life, dans l'événementiel, une centaine de salariés.
Ça pêche au niveau des 10 rémunérations les plus hautes, pas de femmes. Et ça pêche également concernant les retours de congé maternité.
Augmentation salariale obligatoire à chaque retour de congé maternité, dit la loi, aujourd'hui peu appliquée. Autre prise de conscience pour Bénédicte Caron, chef d'entreprise dans la grande distribution cette fois.
J'ai absolument jamais fait attention de me dire est-ce que j'augmente plus les hommes que les femmes. Dorénavant, je regarderai quand même.
Note finale tout de même très bonne dans ce supermarché normand, 99 sur 100. Un nouvel outil intéressant, mais des résultats très facilement falsifiables, nuance cet autre patron qui préfère lui garder l'anonymat.
Ça semble facile de pouvoir tricher à cet index. Notamment parce qu'on sent qu'il n'y a pas de contrôle.
Contrôle de l'inspection du travail qui ont pourtant bien eu lieu, se défend le gouvernement, mais sur la publication effective ou non des notes, pas sur la justesse du calcul effectué. Un index purement déclaratif, donc pour le moment regrette plusieurs confédérations syndicales.
Et les grandes entreprises, elles publient aujourd'hui leur deuxième index détail sur franceinter.fr. En Afghanistan, cette annonce ce matin du président, la trêve partielle est prolongée en vue d'un cessez-le-feu, mais pas d'engagement du gouvernement, dit-il, à libérer 5000 prisonniers talibans. Hier au Qatar, États-Unis et talibans ont signé un premier accord.
Et aux États-Unis, la course démocrate à la Maison-Blanche est relancée.
Oui, Joe Biden remporte la primaire en Caroline du Sud, 52% des voix selon des résultats pas encore définitifs, mais c'est une revanche pour l'ancien vice-président américain après des mauvais résultats dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Un reportage de l'envoyé spécial de France Inter à Charleston en Caroline du Sud, Isabelle Raymond.
Hello, Ms. Fee. This is Leslie from the Joe Biden campaign headquarters.
Au local de campagne de Joe Biden à North Charleston, dans un quartier essentiellement afro-américain, les volontaires battent le rappel au téléphone.
Oh, okay. Is Joe Biden your guy? Oh, okay. Great, great. He's my guy also.
Cette jeune vétérante de l'armée américaine vient ici 3 fois par semaine comme volontaire.
Thanks again, Ms. Fee. He will be making a change.
Joe Biden va changer la Caroline du Sud et le pays, me dit-elle. Et oui, le fait qu'il ait été le vice-président d'Obama compte beaucoup pour moi. Dans les meetings de Joe Biden, l'assistance est mélangée, blancs et noirs réunis, mais plutôt âgés. Les jeunes, quand ils votent, choisissent Bernie, explique Willie, qui dit avoir fait un choix plus modéré. Biden a l'expérience, ajoute-t-il. J'espère vraiment qu'il va pouvoir sortir le locataire actuel de la Maison-Blanche. Il n'aurait jamais dû y entrer.
He should be in the office.
Joe Biden affirme qu'il va remporter la Caroline du Sud. Il est donné grand vainqueur ici, plusieurs points devant les autres candidats. Charleston, Isabelle Raymond, France Inter.
Et mardi, ce sera le Super Tuesday, 14 États qui votent ensemble. Et puis, pourquoi pas profiter de ce dimanche pour rédiger votre lettre de candidature pour devenir membre du jury du prochain Livre Inter, présidé par Philippe Lançon. Vous avez jusqu'au 10 mars inclus sur franceinter.fr ou par courrier. Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.